Quels sont les moteurs de nos actions? Bon. Alors, il s'est trouvé que depuis quelque temps, les frères et les sœurs ont mis ça en évidence dans les discussions qu'on a eues entre nous. Des gens de mon travail également, hein, ou des gens qui ont beaucoup d'ambition, avec des motivations, des mobiles pas toujours louables. Et mardi, nous étions avec Joël, Jean-Luc et les têtes, et on a aussi évoqué un certain nombre de sujets relatifs à ça. Et vendredi soir, Colette l'a très bien rappelé tout à l'heure, on a sorti des mots que j'avais déjà inscrits dans ce que je vais dire aujourd'hui. Je me dis, tiens, c'est un clin d'œil. Je crois qu'avant tout, bon, je pense que Dieu m'encourage moi personnellement, d'accord ? Parce que parfois on se dit, on prépare des choses, mais est-ce que ça va intéresser les autres ? On ne sait pas très bien. Et finalement, ben, on a des petits clins d'œil de la part du Seigneur qui nous encouragent, tant mieux. Pour introduire notre sujet, Jacques a dit tout à l'heure, c'est vrai que la parole se suffit à elle-même, la parole de Dieu se suffit à elle-même. On va commencer simplement par Matthieu 15 pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais vous les lire parce qu'il y a quand même quelques passages, on va un petit peu voyager dans la parole. Matthieu 15, verset 18. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. » C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Bon, il rajoute, mais manger sans être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Christ avait donc déclaré ça. Moi, c'est un passage qui, franchement, me gênait beaucoup. Et pas que, au début, la vie chrétienne, même encore aujourd'hui. Ça me gêne. Alors, justement, bon, comme c'était un petit peu pour moi difficile, j'avais à cœur depuis quelque temps, je disais, je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Je me sentais que j'étais appelé à en parler. Christ, donc, a converti l'apôtre Paul, qui lui-même a développé ça de manière particulière. Ça sort un petit peu les ministres de Christ, hein, c'est aussi développé sur le fondement qui est la parole de Jésus. Donc on va faire un petit saut rapidement à Galates 5, c'est pour ça que le dernier vendredi j'avais un sourire par rapport à ça. 5, à partir du verset 19 à 21. Je vais citer les paroles de Paul. 5. « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables, donc liste non exhaustive. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ces versets mettent en évidence, c'est sûr, la manière dont le Seigneur s'y prend avec l'homme, il regarde vraiment au cœur, aux intentions. Nous allons examiner les motivations ou la motivation, les choix ou les choix de quatre hommes dans la parole de Dieu, dont le cœur était, entre guillemets, impur. En tout cas, que les intentions n'étaient pas très pures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certainement, toutes nos actions sont toujours le résultat de nos mobiles, nos intentions, nos motivations, que nous nourrissons graduellement dans notre cœur et qui, tôt ou tard, finiront par nous échapper. Jean-Luc avait nommé les moteurs, j'avais déjà noté ça depuis plus d'un mois, ces trois moteurs puissants, cachés donc pour un temps, vont engendrer de toute manière, de tôt ou tard, des actions bonnes ou destructrices. Nous allons faire un petit tour du côté de 1 Samuel 16. Donc je vais prendre un petit intercalaire. 1 Samuel 16. Verset 7. C'est, pour finalement introduire le sujet, c'est le moment où Samuel est envoyé vers la famille d'Isaïe, où il va choisir un nouveau roi, où il dit à Samuel, ne pleure plus. Sur Saül, je l'ai rejeté. C'est dû être un moment déchirant pour Samuel, qui avait à cœur sa vocation. Et il va donc chez Isaïe, avec un petit subterfuge. Dieu lui donne un petit moyen d'échapper à Saül. Et il dit ceci, dans ce passage-là, Voyant qu'ils entrèrent, il dit, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, même, on sait par la suite que David a été choisi alors qu'il n'était même pas là. Comme quoi, Dieu a une façon de voir qui est très différente de nous. Nous allons donc examiner quatre cas de personnes qui ont une motivation, un mobile qui est quand même un petit peu différent de la façon dont Dieu voit. Nous allons parler rapidement de Joab. On pourrait dire que Joab, c'est un homme qui est animé par la vengeance. Dans 2 Samuel 3, verset 27, c'est à l'époque où Abner avait pris, était passé dans l'autre camp, n'était pas dans le camp de David à ce moment-là. Et dans ce passage-là, Joab va assassiner lâchement Abner. Donc je vais le lire, ce sera plus simple. 2 Samuel 3, verset 27. Oui, c'est pas 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Au verset 31, David dit à Joab et à tout le peuple qui est avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de ça qui pleurait devant Abner. Et le roi marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un meurtrier? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Et tout le peuple pleura. David fait un jeûne. Et ensuite il dit, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme, au verset 38, est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et les gens, les fils de Tseruya, c'est-à-dire la famille de Joab, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Alors Joab assassine lâchement Abner, qui est pourtant revenu en paix à ce moment-là. Le roi David avait pardonné donc à Abner de s'être un peu trompé de camp. Il faut savoir qu'à l'époque, Abner avait pris le camp de Saül. Il avait servi ensuite Iphibosheth, qui est le fils de Saül. Dans une réconciliation qui était de bonne aloi, parce que David avait besoin quand même d'Abner, qui était un vaillant et un valeureux guerrier, il lui avait pardonné. Par contre, Joab, lui, n'avait pas pardonné à Abner d'avoir tué son frère Azaël. Cette histoire nous est racontée dans 2 Samuel 2, verset 20. Où à ce moment-là, bon, c'est la guerre entre les parties de Saül et de David. D'un côté, il y a Joab et son armée, et de l'autre côté, il y a Abner et son armée. Et en fait, dans ce passage-là, vous le connaissez sûrement, je ne sais pas s'il faut forcément le lire. À un moment, Joab, il dit à Azaël, qui est le frère, Abner dit à Azaël, qui est le frère de Joab, détourne-toi, sinon je devrais te tuer. Donc, on voit dans le passage-là, qui est très bien décrit, il lui demande à plusieurs reprises de se détourner, et Azaël ne le fait pas. Donc, Azaël, quelque part, précipite sa propre mort. Alors, dans ce passage-là, on comprend, on voit bien qu'Abner, il s'est défendu, c'était un valeureux guerrier, un homme de guerre, et malheureusement, Azaël n'a pas laissé la possibilité à Abner d'agir autrement. C'était la guerre, ils se sont battus. Mais Joab, lui, a nourri cette vengeance. La colère et la vengeance ont été, en tout cas, dans ce cas-là, de bien mauvaises conseillères pour Joab et pour ses descendants. D'ailleurs, dans 2 Samuel 3, David dit une malédiction. Dans 2 Samuel 3, 28... David l'a pris, il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux de lèpre, qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée, qui manque de pain. Donc c'était terrible. Donc la malédiction consécutive à la vengeance et à la colère a tombé non seulement sur Abner, mais également sur toute sa famille, ce qui est quand même terrible. Alors, je sais pas, donc... La question que je me suis posée, c'est au départ moi-même, pour moi-même et par rapport à ce que je vois autour de moi, je vois beaucoup de gens qui veulent se venger, je vois beaucoup de gens qui... j'ai une amie, son copain l'a quittée il n'y a pas longtemps, et elle me dit, dans 6 mois, je serai morte, tellement la vengeance et la colère est dans son cœur. La vengeance et la colère, en tout cas, c'est sûr, isolent la personne. Non seulement elle l'isole, mais elle le pousse à commettre des actes mortels, un comportement mortel, ça c'est sûr et certain. C'est ce qui est arrivé à Abner. Il a ruminé sa vengeance et il a fini par passer à l'acte. Il s'ensuit une malédiction. Que chacun s'examine soi-même. Bon, difficile aussi parfois de reprendre des gens comme ça qui sont embarqués dans la vengeance et dans la rancune, c'est très difficile. Mais je me suis posé la question pour moi-même, suis-je un homme en colère ? Suis-je un homme qui veut se venger ? Bon, il y avait des choses quand même que j'avais besoin de régler. Quand j'ai fait ce chose-là, j'ai besoin de régler les choses honnêtement. Et c'est ce que j'ai fait. David a dû apprendre aussi la leçon par rapport à ça à plusieurs reprises, car à un moment, dans un psaume 37, il dit ceci, verset 8, « Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, donc ne nourris pas la vengeance, pardonne plutôt, car en fin de compte, tu feras mal. » Je pense qu'il avait raison. Il a tiré une leçon de cette histoire, je crois. Entre autres, parce qu'il y a eu d'autres histoires, avec d'autres conflits, d'autres personnes. Je crois qu'il a tiré une leçon de cette histoire. Et notre exemple, on va revenir à David, en deuxième exemple d'une autre motivation. L'histoire de David, à un moment, David, on pourrait dire qu'il était animé par la crainte de mourir. La crainte. Là aussi, c'est une motivation qui peut engendrer bien des comportements bizarres. David, c'était un homme qui était aimé de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, était protégé de Dieu. Il a été protégé à maintes fois par la main du Seigneur. Pourtant, David, au moment où il est le plus pressé par la peur, il se met à réfléchir. Dans 1 Samuel 27, verset 1, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Saül, ça fait quand même 2 fois qu'il essaye de le tuer. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gad. David et ses gens restèrent à Gad auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül informait que David s'était enfui à Gad, cessa de le chercher. Il faut croire que la crainte... On voit que la crainte, là, à ce moment-là, a voilé le discernement de David. David disait lui-même, ne sais-tu pas qu'on ne peut rien me cacher ? Il disait ça de lui-même. Il y avait un vrai discernement. Mais la peur a paralysé son discernement. Son jugement était complètement faussé. Et il fait une chose incroyable. Il se réfugie chez son pire ennemi. Les Philistins étaient un ennemi héréditaire. Et ça l'est toujours. Bien. Alors c'est tout à fait paradoxal. En réfléchissant, il dit des choses terribles. Et il dit... Bien que David connaisse le vrai refuge, ça me rappelle un verset, le vrai refuge, il connaît le vrai refuge pourtant David. Dans 1 Samuel 26, à partir du verset 24, je crois, c'est Saül qui lui répond, « Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, c'est Saül qui répond à David, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, dit David, et il me délivrera de toute angoisse. » Donc David connaissait la grâce de Dieu, connaissait le vrai refuge. Mais animé quand même par la peur, il perd son discernement et il va chez son pire ennemi, Achish. La peur peut engendrer bien des exploits, mais de courte durée. Et je vais repenser, je vais rajouter ça tantôt, si comme Jean dit ici, l'amour bannit toute crainte. On voit que la crainte par elle-même conduit toujours à des pseudo-refuges, toujours. Et c'est un mauvais choix. D'ailleurs, la parole de Dieu nous relate un autre épisode un peu plus tard dans 1 Samuel 30. Bien sûr, David fait la guerre pour Achish, qui croit en sécurité, alors que la bénédiction elle est en Israël, elle est là où le Seigneur l'avait placée. En 1 Samuel 30, versets 1 à 3, lorsque David arriva le troisième jour à Stiglad, avec ses gens, les Amalécites, avaient fait une invasion dans le midi, et à Stiglad, ils avaient détruit et brûlé Stiglad. Vous savez, Stiglad, c'est une ville qui avait été offerte par le roi de Gad à David pour son refuge. Et Stiglad a été détruit et brûlé. Les Amalécites ont pris toutes ces deux femmes, ses enfants et toutes ses provisions. Donc c'était vraiment un très très mauvais choix. Je pense que s'il avait consulté Dieu, Dieu ne l'aurait pas envoyé là-bas. Mais la crainte, animé par la crainte, il a fait forcément un choix douloureux. Il a du sang. Ensuite, c'était réparable, ce qu'il a réparé. Mais il lui a fallu du courage, il a fallu beaucoup d'efforts, il a fallu beaucoup de temps pour le faire. Donc, on peut donc en conclure que les choix faits sous la crainte sont toujours de très très mauvais choix. Un troisième exemple, d'une toute autre nature, mais pas des moindres, concerne le premier fils de David, Amnon. Amnon, ou l'homme tourmenté par la convoitise. Amnon, c'est le fils aîné de David, donc le fils d'Abinoam de Jisraël, la première femme de David. L'histoire raconte qu'effectivement il est amoureux de sa demi-sœur Tamar. Dans 2 Samuel 13, Samuel 13, 1 à 5. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si... Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il n'est pas dit un homme de Dieu, il dit un homme très habile. Et il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi le fils de... Et en fait, il lui dit, voilà un conseil que je te donne, tu le suis, tu verras, ça va très bien marcher. Ok. Alors c'est sûr, on pourrait toujours penser, il y a des antécédents dans la famille de David. Bathsheba, c'est une histoire qui est mondialement connue. On pourrait aussi intituler ce petit paragraphe, l'inceste à la cour du roi David. C'est pourtant ce qui est arrivé. Amnon, dans cette histoire-là, on va revenir à l'essentiel, est responsable d'avoir laissé la convoitise s'emparer de son cœur. Il n'a pas cru nécessaire de purifier ses sentiments, de les regarder tels qu'ils étaient. Et Jonadab, et je parle par expérience, vous trouverez toujours un Jonadab pour vous pousser du côté où vous allez tomber. Toujours. Toujours, 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 toujours. Et ce n'est pas qu'uniquement dans notre milieu à nous, médical. Je peux vous dire que ce genre de propos, ça circule. Bien sûr, Jonadab facilite la tâche, mais on ne voit pas du tout Amnon résister. Pas du tout. Amnon garde toute la responsabilité d'avoir laissé cette convoitise l'envahir à ses dépens. Et les résultats, quels résultats? Il est tout à fait symptomatique de voir que Paul, parmi les 10 commandements de la loi, développe un péché en particulier, c'est la convoitise. Dans Romains 7, 7. Il dit, s'il n'y avait pas eu de loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, si c'est en l'occasion, me fit pécher. Voilà. C'est marrant. Alors, il a pris la convoitise comme étant un péché, à mon avis, dominant dans le cœur de l'homme, en général. Convoitise de toutes sortes. Qui entraîne nécessairement toujours des grosses difficultés, des gros drames. Et alors, il y a une mutation qui se fait au niveau des sentiments. On voit Amnon non seulement sans seulement cède à sa convoitise, ça devient péché, mais en plus de ça, la passion, au bout d'un moment, se transforme en aversion. Bon, un drame psychologique. On revoit le résultat de son action, une princesse déshonorée, une demi-sœur bafouée, chassée par un esclave comme par un serviteur. Un drame psychologique pour tous ces personnages. Dans le cœur de Tamar, parce que c'est une princesse qui, au moins, n'aura pas pu se présenter comme princesse. Amnon, qui, à mon avis, tombe après dans le rejet, dans l'aversion, dans la haine, dans le dégoût, et aussi dans le cœur d'Absalom. Les dégâts sont terribles. C'est un peu comme une pierre qu'on jette dans l'eau, et bien les ronds que l'on engendre va, comment dirais-je, perturber tout le lac. Cette convoitise a entraîné donc la honte, le meurtre et aussi la division. Tout à l'heure, on a fait référence un petit peu à l'époque Jacques. Jacques a dit quelque chose par rapport à la convoitise, que je me suis rappelé. La convoitise dans Jacques 1,14, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. » Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est vrai que dans cette histoire, je ne crois pas que Tamar ait provoqué Amnon. Amnon fut effectivement amorcé par sa propre convoitise. Et je me souviens quand Philippe avait prêché sur « Protège ton cœur plus qu'autre chose ». C'est vrai que c'est du cœur que coulent les sources de la vie, il avait dit, on pourrait même dire de toutes les bénédictions. Au moment où on cultive en soi la convoitise notamment, ou la vengeance, on se coupe de la grâce de Dieu, complètement. Complètement. Bien sûr, il y a différents types de convoitises, et chacun d'entre nous bronchons d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr et certain, que ce soit ça ou autre chose. J'ai pris la convoitise là parce que c'était des goûts humains, c'était dans la Bible. Bon, mais il y a d'autres convoitises, peut-être la richesse, peut-être plein de choses. C'est David qui dit également dans un psaume, pour parler d'un autre sujet, le psaume 23, verset 1 à 3, il dit comme ça, si tu es à table avec un dirigeant, par exemple la pétence, la goutonnerie, avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Mais ce n'est pas forcément à table, ça peut être aussi bien dans les affaires, après tout. Réfrène ton appétit si tu es glouton ou s'il se pourrait que ce mets soit décevant. D'accord ? Tu te mets en difficulté. Quatrième exemple, eh bien on va parler d'Absalom maintenant, on l'a juste évoqué, Absalom. Absalom ou la soif du pouvoir. C'était un homme, bon, je vais plusieurs fois lu sur l'histoire d'Absalom, c'est un homme qui était très ambitieux. L'ambition, certes, une bonne chose. Mais il était animé d'un esprit en particulier de contrôle de tout et de tout le monde. Absalom, c'est un personnage un petit peu curieux, atypique. Hein. Dans le contexte qui nous intéresse, il vient de se réconcilier avec son père, qui l'accueille. Bon. Bien que dans l'épisode de 2 Samuel 15, Absalom se prosterne la face contre terre, le cœur de cet intrigant n'a pas changé. Malgré les 2 ans d'exil, dans 2 Samuel 15, on va le prendre tout de suite, ce sera plus simple. 2 Samuel 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin, se tint au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Absalom l'appelait et disait « Quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Voici, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aura une contestation à un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui rendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom s'agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Alors, il est légitime d'avoir de l'ambition, certes, mais une ambition qui dévore, qui oublie le protocole, qui oublie le respect, qui, bon, déjà même pas conçoit même pas la grâce de Dieu, hein, parce que David avait été choisi comme roi. C'est pas lui qui était choisi comme roi. Il était quand même fils du roi. Je pense qu'il avait beaucoup d'avantages. Eh bien, ça ne lui suffisait pas. Nous voyons là un bon exemple d'un stratagème et d'une stratégie qui use et abuse de moyens tout à fait injustes, de tromperies. Alors la question que je me suis posée, c'est celle-ci, est-ce que la fin justifie-t-elle les moyens en tout cas, dont Absalom a employé pour parvenir à ses fins? Qu'arrive-t-il lorsque effectivement on est embarqué par la désir de contrôle, un désir d'ambition qui est irréfréné? Comment tout cela va-t-il finir? Eh bien, la parole de Dieu, à plusieurs endroits, nous dit que tous les orgueilleux finissent tous de la même manière, humiliés, d'une manière ou d'une autre. À moi la justice, à moi la vengeance, dit l'Éternel. La parole de Dieu nous exhorte justement à mesurer notre ambition, mesurer notre vouloir. Dans le Proverbe 30, verset 32, il dit ceci: si tu es assez fou pour te vanter, si tu as de mauvais desseins, tais-toi désormais. Dans le Psaume 31, 24, vous fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. Donc mettez Dieu en priorité. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes. L'Éternel garde les croyants et il punit sévèrement les arrogants. Et il dit dans le psaume 15, 25, je me souviens bien, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété des veuves. Absalom, lui aussi, était un homme certainement beau. Il est décrit comme étant un bel homme, ambitieux, fort. Il a commis un petit peu le même péché qu'on retrouve dans Ézéchiel 28, quand il parle de Satan, à un moment, l'orgueil, la beauté. C'est une des figures, j'ai retrouvé ça dans un livre. C'est une des figures de l'adversaire. C'est-à-dire, on trouve qu'on est bien, on est beau, on est capable d'eux. Et c'est cette ambition-là qui est dangereuse. C'est de croire que bon, on peut le faire, c'est à nous de le faire, sans consulter Dieu, sans avoir la sagesse de consulter ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui ont été mandatés pour te juger. Et la Bible ensuite raconte la triste histoire, la fin de l'histoire d'Absalom, qui, sous la main experte de Joab, il en a fait un peu le tour de cette famille très tourmentée, trouve la mort, et Joab ne le tue pas tout seul parce que lui, il lui plante 3 pieux, mais il y a 10 hommes qui le terminent, quand il est coincé la chevelure dans l'arbre, là. Et il trouve là une mort absolument humiliante, suspendue entre terre et ciel et terre, pour un fils du roi, ça devait être humiliant. Tué par des soldats comme ça, c'est terrible. D'ailleurs, c'est marrant parce que David n'a pas participé à ça. Dieu a fait la justice lui-même, quelque part. Alors, dans ces 4 exemples, qui sont des simples exemples, on pourrait tirer un certain nombre de conclusions. C'est une question qui reste ouverte. Mais rappelons-nous Matthieu que j'ai cité au début. On peut vraiment dire qu'aujourd'hui, Jésus avait raison. Et persuadé que Matthieu 15 est la vérité. C'est vraiment du dedans du cœur que sortent telle chose, telle chose et telle chose. Alors, bon, maintenant, ça fait son chemin, hein, persuadé que cette parole-là, qui était pour moi une pierre d'écueil, je craignais cela, hein, parce que j'ai pu voir qu'effectivement, dans nos cœurs, facile de dire ceci, fait cela, mais dans l'action, dans le vif de l'action, dans nos vies, on se rend compte quand même que la chair est encore parfois bien vivante, et qu'on décide des choses tout seul, on fait des choses seul. Dans Galates 5, 22, on a le côté positif, on en a parlé vendredi, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit sont complètement opposées à ceux de la chair. Marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi, et vendredi on avait développé ça ensemble, la loi du péché qui est en nous. Alors aujourd'hui nous vivons sur le temps de la grâce. Mais est-ce que Dieu aurait fait grâce au temps d'Absalom, au temps d'Amon, au temps de Joab? Moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Dieu l'aurait fait, s'il avait cherché. de l'aide auprès de l'Éternel, il l'aurait fait. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une dispensation bien plus excellente. Nous avons le Saint-Esprit en nous, et pas seulement que le roi, pas une personne qui peut bénir. Bien que s'ils avaient été sous l'autorité du roi, ils auraient certainement été bénis plus facilement, mais ils n'ont pas été sous l'autorité du roi. Ils se sont mis sur leur propre autorité. Ils ont usé d'orgueil. Alors, c'est une question qui reste ouverte. Et c'était hier matin, j'ai reçu cette petite pensée de la part de Dieu, merci Seigneur, dans le Proverbe 23-26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Cette simple pensée de la part de Dieu. Je ne sais pas comment conclure, hein. Là j'improvise parce que j'étais un peu sec. Je sais bien, parce que c'est une question ouverte. Hein. Quels sont les moteurs de votre vie? Et cette simple pensée, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est simple comme pensée, mais c'est la seule façon d'échapper un petit peu au travail de la chair. Alors je vous laisse méditer là-dessus. Dieu travaille pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il est dit « Confessez les péchés aux uns aux autres ». Trouvez des frères et sœurs qui puissent vous écouter. Prions les uns pour les autres parce qu'on a vraiment besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.